Vous êtes sur RTL.
Auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Comment se fait-il que les soignants rechignent à se faire vacciner? Les hôpitaux sont le premier lieu de maladies nosocomiales. Les soignants sont les plus exposés à la Covid et ils ont un risque de transmettre aux patients, ce qui est quand même un comble, la Covid. Des patients qui pourraient entrer à l'hôpital pour une autre raison. Marcelin est donc médecin généraliste en Vendée.
Oui, tout à fait. Bonjour, Pascal.
Rebonjour. Donc, pourquoi trouvez-vous que c'est une bonne idée de rendre la vaccination obligatoire ?
Bah, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, rendre la vaccination obligatoire s'impose, vu les chiffres, vu l'évolution, vu cette pathologie, cette maladie que dans une carrière de médecin, on ne voit jamais ou peu, ou quasiment jamais. On est là avec des chiffres de mortalité et de maladies qui sont explosifs. On n'en voit pas la fin. On envoie des gens soigner les patients ou les soignants reçoivent des patients eux-mêmes, prennent un grand nombre de précautions. Les précautions d'usage comme le masque, les gels hydroalcooliques, les gants, les publics, etc. Je pense qu'il y a la vaccination qui montre petit à petit son efficacité, hein, qui se confirme de plus en plus avec son peu d'effets secondaires, est un élément qui doit être pris en compte par les autorités et qui doit rendre obligatoire. Oui,
mais Marcelin, si on en arrive là, c'est qu'il y a des réticences. Alors pourquoi y a-t-il ces réticences? D'abord, est-ce que vous les constatez, vous, dans le personnel médical? Et si on commence à parler de réticences sur les vaccins, c'est qu'on peut se dire, si les soignants qui sont en première ligne n'ont pas confiance, pourquoi pas? Je pose la question. N'ont pas confiance en le vaccin, le reste de la population peut y voir un signe négatif.
Alors bon, c'est toujours le problème de la généralisation. Effectivement, je constate bien qu'un grand nombre de soignants sont réticents.
Et pourquoi?
Je suis mal placé, moi qui suis convaincu pour vous répondre.
Oui, mais moi ça m'intéresse de savoir. J'ai l'impression qu'il y a du non-dit. Ils trouvent qu'il peut y avoir des conséquences au vaccin, des...
Pas certain. Je pense que ça s'inclut dans un contexte de plus de méfiance où on nous a menti. Hein. On nous a menti plusieurs fois. Il n'y avait pas de masque, mais s'il y avait des masques, mais il ne fallait pas les mettre, etc. Et puis après, c'était les tests.
Mais c'est les effets secondaires qui font peur. Les effets secondaires à long terme, par définition, qu'on ignore, puisque le vaccin, il a un an.
On sait bien que quand en France, il y a des nouveaux vaccins, dans la population, tout le monde a peur. Hein.
Oui, mais les soignants, aujourd'hui, on a un peu de recul sur la vaccination. Ça fait 4-5 mois que beaucoup, des millions de gens sont vaccinés dans le monde.
C'est vrai, on a un peu de recul. Oui.
Donc, s'il y avait des problèmes majeurs, il y a parfois eu des problèmes, comme il y a statistiquement, sur toutes les vaccinations, mais ni plus, ni moins. Ouais.
Moi, j'ai pas l'impression que ce soit en rapport avec les effets secondaires, même s'ils sont connus et ils sont plus fréquents.
Alors, c'est quoi? Par exemple, vous qui êtes au cœur, vous me dites, je vois les réticences. Qu'est-ce qu'ils vous disent?
C'est la méfiance. On nous oblige encore à faire ça, on nous oblige à faire ci. C'est la contrainte et la conviction et plus de transparence gagnerait pour convaincre les soignants.
Mais plus de transparence, ça veut dire quoi? Parce que la transparence, j'ai l'impression qu'elle existe, moi, dans ce domaine. On sait les vaccins, aujourd'hui on sait Pfizer, on sait AstraZeneca, on sait Johnson & Johnson.
Pour certaines personnes, mais le vaccin égale à l'histoire du masque, à l'histoire du gel.
Oui, mais on va pas rester fixé sur le masque, ça fait quand même un an. Bon, maintenant le masque, faut tourner la page. Oui, au départ on a dit il n'y a pas besoin de masque, mais quand même depuis, les choses ont... À part finalement le masque d'ailleurs, qui a été vraiment un... comment dire, là pour le coup, non pas un mensonge, mais une mauvaise analyse. Après, au niveau du gouvernement, c'est l'échec le plus important, vous voyez. Mais autrement, après, il y a eu des ajustements au jour le jour, mais il n'y a pas eu une chose de dite qui était aussi contestable que le masque.
Oui, je ne partage pas trop, je ne suis pas tout à fait d'accord, vous savez. Il y a un décalage entre ce que l'on dit au niveau de l'information et au niveau du terrain. Moi, j'ai vécu le masque, mais j'ai vécu aussi le gel, j'ai vécu les tests antigéniques. Et donc, c'est un, tout un contexte de méfiance pour moi. Hein. C'est moins les effets secondaires qui sont un peu craints, mais je ne pense pas que ce soit les effets secondaires à court et à long, ou à long terme qui fassent, qui effraient la population médicale. Alors, quand on parle de population médicale, il y a les médecins qui, pour un certain nombre, sont d'esprit libéral. Donc, la contrainte, c'est pas leur truc, on va dire. Et puis il y a le monde des soignants, au plus près du résident, qui eux sont quand même dans la méfiance.
Bah écoutez, merci Marcelin. Vous habitez où en Vendée ?
À Notre-Dame-de-Mont.
Ah, Notre-Dame-de-Mont. Bah écoutez, voilà, c'est bien.
Sur la côte.
Voilà. Sur, bien sûr, Notre-Dame-de-Côte. Vous avez commencé à vacciner vous-même ?
Ah, tout à fait, oui, bien sûr.
Bon. Et tout se passe bien ?
Pour l'instant, ça se passe bien. C'est un peu difficile à organiser, hein, avec des emplois du temps déjà surchargés, mais ça se fait.
Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Marcelin. Merci, il est 13h08. On va marquer une première pause. Je salue M. Caranoni, qui a été présent toute la semaine, fidèle au poste.
Bonjour.
Bonjour. Comment ça va ?
Ça va très très bien, merci.
Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes en train, vous avez, je sens que vous allez chercher des choses.
Pas du tout. Pas. J'essaie de vous faire plaisir. Bon.
Mais non, c'est la chanson d'hier.
Et ben pourquoi pas, c'est vendredi. Arrêtez, vous esquissez un sourire, je le vois d'ici.
Vous avez 24 heures de retard, c'était la chanson d'hier, ami.
Et alors ?
Alors j'aime le vendredi, vous savez pourquoi ? Parce que Cyprien Sini passe nous voir, généralement, pour annoncer On défait le monde. J'ai vu l'ami Stéphane Carpentier également, qui est là. C'est vendredi.
Oui.
Donc nous, on s'en va et eux arrivent.
Absolument.
C'est un peu le sens de la vie. A tout de suite.
Avouez, ça vous fait plaisir quand même.
J'adore Sheila.
Ben oui.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Vous savez qu'il est 13h11 et tous les jours, désormais, on me dit le débrief de Laurent, c'est formidable. Les gens l'attendent.
Oh, la pression que vous mettez.
Mais non, je vous assure, Laurent.
Mais on accepte.
C'est bien parce qu'on se met en direction chaque mot qui sort de notre bouche. On dit, est-ce qu'on va le retrouver dans le débrief?
Ne réfléchissez pas trop. Hein. Soyez naturel, Pascal Praud. C'est comme ça qu'on vous aime.
Oui.
Faut-il rendre la vaccination obligatoire? C'est bizarre cette phrase quand même.
C'est assez bizarre, je dois dire que...
Le problème, c'est que Laurent ne va pas se mettre lui-même dans le débrief.
Oui, voilà, c'est un concept en fait, je crée le débrief moi-même.
Voilà, vous pourriez vous mettre... D'abord, on pourrait souhaiter bon appétit à tous ceux qui sont... On le fait jamais, ça.
C'est vrai, vous avez raison.
Jamais, jamais.
C'est vrai.
Je pensais que vous allez souhaiter la bienvenue à Emmanuel, le bébé de Céline Landreau.
Alors, mais très bien, attendez. D'abord, c'est un très joli prénom. Emmanuel, c'est un Emmanuel au...
Masculin.
Au masculin, masculin,
un petit garçon.
Donc je ne sais pas si c'est un hommage politique qu'a voulu rendre Céline Landreau, mais en tout cas on lui souhaite longue vie à ce petit Emmanuel qui arrive en ce bas monde, et on félicite évidemment la maman et le papa.
Bienvenue à Emmanuel. Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants ? Question sur nos réseaux sociaux. 30% dans les hôpitaux l'ont fait, 40% des personnels des EHPAD. Le Premier ministre Jean Castex appelle tous les soignants à se faire vacciner.
Pour que cette vie sociale apaisée de nos aînés résidant dans les EHPAD et les unités de soins de longue durée puisse retrouver sa pleine dimension, il faudra que les personnels de ces établissements se fassent vacciner. Trop d'entre eux ne l'ont pas encore fait et je les invite solennellement à le faire très rapidement.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a lancé aussi son appel hier.
Je crois que le temps de la réticence est derrière nous. Je vais écrire aux médecins, je vais écrire aux infirmières, je vais écrire aux sages-femmes, je vais écrire aux kinés, à tout le monde, et je vais leur dire que ce combat, ils le mèneront encore mieux s'ils sont eux-mêmes protégés. Mais si ça ne suffisait pas, alors nous pourrions envisager une saisine du Conseil consultatif national d'éthique qui serait fondée à nous dire s'il faut aller au-delà.
Alors est-ce bien raisonnable de ne pas se faire vacciner quand on est au contact de patients ? Vous travaillez à l'hôpital, dans un EHPAD, qu'avez-vous décidé ? Cette obligation serait-elle contre-productive ? Eh bien laissez donc les soignants tranquilles, demande Eric sur la page Facebook de l'émission. Non, pas question de les obliger, lance-vodule, chacun est libre de choisir. On nous prive déjà de plusieurs libertés. Christelle, tiens, est soignante, on ne compte plus nos heures. La vie de famille est mise de côté. On nous demande de nous faire vacciner, mais que fait-on des proches des familles ? Eux aussi peuvent être porteurs du virus, autant faire vacciner tout le pays. Réaction différente à l'instant de Bernard. Refus de certains soignants est inadmissible. À eux de montrer l'exemple, rajoute Patrick. Le retour à la vie normale passe par cet acte et c'est moralement inacceptable, conclut Nicole. Les soignants sont au contact des personnes les plus fragiles.
Effectivement, et comme on le dirait chez Mary Poppins, c'est super califragilistique. Alors on est avec Justine.
Justine. Non, on réagit non, c'est incroyable à cette comme phrase de Mary Poppins.
Bah, évidemment, vous savez pas ce que c'est que
si, supercalifragilistiesque-picalidocieux. On va être extrêmement complet.
Exactement. On travaille notre diction comme
c'est un mot. C'est un mot extrêmement compliqué. Justine est là. Bonjour Justine.
Bonjour Pascal. Bonjour.
Alors vous êtes infirmière. Est-ce que vous allez vous faire vacciner?
Alors écoutez, moi pour le moment, pour aujourd'hui, je suis contre. On peut toujours changer d'avis.
Mais pourquoi?
Eh bien écoutez, avant d'être soignante, je suis une citoyenne lambda, j'ai 28 ans, j'ai pas de comorbidité, aucun problème de santé, je suis en âge de procréer et c'est un projet également, j'ai quand même une certaine méfiance vis-à-vis de ce vaccin, vis-à-vis des effets secondaires à long terme.
Mais comment vous convaincre? Parce que c'est ça qui est difficile. Par définition, le vaccin il a un an, donc les conséquences à long terme, j'imagine, ça peut être à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi, j'entends dire qu'il n'y en a jamais sur un vaccin. Ou il y a une réaction immédiate, ou il n'y en aura plus jamais. Donc, vous êtes infirmière. Donc, vous êtes au contact des malades. Vous avez possibilité, alors pour vous, il n'y a pas de souci, mais vous avez possibilité, vous, de transmettre.
Alors, tout à fait. Alors, hier, au JT, on a bien entendu que les soignants étaient responsables de un tiers des contaminations à l'hôpital. Alors, déjà, je souhaitais rebondir là-dessus parce qu'on nous dit ça à la télé, mais on oublie de préciser derrière que les soignants ont été obligés de continuer d'aller travailler en étant positifs.
Non, mais Justine, il est évident qu'on ne va pas mettre la culpabilité sur les soignants. Les soignants font un travail en France depuis un an remarquable, c'est pas le sujet. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais pour vous, Justine, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous dites, ni les plus grands professeurs, ni les plus grands médecins disent que c'est possible. Des effets secondaires à 5 ans, ça n'existe pas.
Il y a quand même le cas du vaccin de l'hépatite B pour lequel il y a eu des cas de sclérose en plaques. Ça a été reconnu, ça a été avéré.
Justine, parce qu'on a eu ce débat il y a 3 semaines ou un mois, et j'ai fait intervenir un médecin qui a dit non, tout ça, on est dans la rumeur urbaine. Il n'y a pas de vaccin qui ont créé la sclérose en plaques. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est même pas que ce soit vrai ou pas, c'est pas ça qui est intéressant, c'est que vous le pensiez.
Ça fait beaucoup. Je connais beaucoup de personnes. J'ai soigné l'année dernière un patient qui est décédé de sa sclérose en plaques et qui a dit que c'était effectivement à cause du vaccin. Des médecins le disant.
Oui. Alors, écoutez, vous savez ce qu'on va faire, Justine, parce que ça, c'est un thème vraiment intéressant. Je voudrais vraiment qu'on ait un médecin là-dessus. Parce que c'est ce que vous dites, il y a beaucoup de gens qui doivent le penser, la méfiance, la défiance vis-à-vis du vaccin. Et pour tout vous dire, je trouve qu'on doit être un peu militant sur le vaccin. Je pense qu'il faut faire passer l'idée que le vaccin est la seule solution de s'en sortir. C'est rare que je dise ça, pourtant à l'antenne, mais moi je suis prête à me faire vacciner si on retrouve tous une vie normale, pour aller au cinéma, pour aller au théâtre, etc. Mais si il y a des réticences, et notamment s'il y a des réticences sur les soignants, ça me paraît... très, très dur, quoi, très difficile.
Mais Pascal, on n'a pas de vie normale. Pourquoi? Pour protéger les aînés, pour protéger les personnes vulnérables, les personnes qui ont des comorbidités. On les protège, eux. Pourquoi on ne les oblige pas, eux, à se faire vacciner plutôt que d'embêter les jeunes qui n'ont pas de comorbidité?
Ça, c'est encore autre chose. Mais de toute façon, toutes les personnes fragiles et âgées vont être vaccinées. D'ailleurs, j'ai précisément la liste. D'ici mi-mai, au moins 20 millions de personnes seront vaccinées. Il y a 22 millions de doses de vaccins attendues en mars et avril. C'était la conférence de Jean Castex hier. C'était ça, les grandes nouvelles. Le variant anglais, c'est plus 60% des contaminations. 1 800 000 personnes ont reçu à ce jour 2 injections. C'était les grandes infos qui sont sorties hier, si j'ose dire qu'il fallait retenir. Alors Justine, restez avec nous. Moi, je voudrais appeler un médecin. Tiens, l'idéal, ce serait d'appeler le professeur Kahn, si on pouvait l'avoir, le généticien qui a souvent exprimé ce sujet à l'antenne, si on arrive à le joindre, et qui pourrait rassurer à la fois Justine et les auditeurs. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Mary Poppins dans les auditeurs. Mais qu'est-ce qu'il y avait à faire là?
Monsieur bien, vous évoquiez tout à l'heure ce mot extrêmement long. Alors
super califragilistique.
Vous le dites pas très bien, mais bon. Pas évident non plus. Hein.
Bon, Justine est avec nous. Elle est en défiance. Elle est infirmière libérale sur le vaccin. On essaye de joindre. Je ne sais pas si on va l'avoir ou un médecin ou un professeur de médecine qui pourrait nous rassurer. Nathalie est là aussi. Bonjour Nathalie, vous êtes infirmière. Notre question du jour, c'est pourquoi les soignants ne se rechignent à l'idée de se faire vacciner et en colère, faut-il obliger les soignants à se faire vacciner ? Nathalie, oui, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Pro, bonjour à tous les auditeurs. Donc effectivement, moi je suis infirmière libérale et donc depuis plus d'un an maintenant, on est sur le terrain pour lutter contre cette épidémie. Moi je ne suis absolument pas pour le vaccin et je ne suis absolument pas pour qu'on force les gens. Je veux qu'on responsabilise les gens et qu'on arrête de les infantiliser. Je vois sur le terrain des gens qui se sont fait vacciner dans ma patientèle et qui ont eu les deux doses de chez Pfizer et qui actuellement développent aussi le Covid. Donc ils ont eu des effets indésirables des vaccins, des courbatures, un peu de température, tout ça. Et aujourd'hui, cette personne a quand même le Covid qui lui est arrivé. Donc moi, je ne vois pas la nécessité de le faire. En plus, je voudrais signaler quand même
des
que
gens
les
vaccinés
soignants...
qui développent le Covid,
oui,
qui serait efficace à 95%. Alors il y en a sûrement puisqu'il est efficace à 95%, mais on est dans la marge d'erreur. Moi, je veux bien que par rapport à un seul cas, faut accepter la marge d'erreur. C'est comme moi, je me fais vacciner par exemple chaque année contre la grippe. Bon, je sais très bien que c'est pas du 100%.
Tout à fait.
Mais c'est pas un argument, ça, quand même, Nathalie. C'est pas parce qu'une personne, il est efficace à 90-95%. Si tout le monde raisonne comme vous, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on n'en sort pas, en fait. Pardonnez-moi de le dire comme ça, Nathalie. Mais on n'en sort pas. Si tout le monde a votre raisonnement, on n'en sort pas.
Vous pensez que depuis un an, les mesures barrières et tout ça à domicile n'a pas fonctionné par rapport à notre
Je me rends compte que non, puisque on est dans tout est fermé en France, tout est bouclé en France.
Ah, mais tout est bouclé, mais sur le terrain, monsieur, ce qu'il faut voir, c'est ce qui se passe sur le terrain.
Bah, sur le terrain, tout est bouclé.
Non,
les restaurants sont bouclés, les salles de cinéma sont bouclées. S'il n'y a pas de vaccin, comment on fait ?
Moi, sur le terrain, je vois mes personnes âgées qui n'attrapent pas forcément le Covid parce que les gens qui viennent chez eux pour les soigner font les mesures barrières que l'on fait en automatique quand on travaille
Mais
en réa.
Nathalie, vous voyez bien que c'est pas suffisant puisqu'il y a toujours des gens qui rentrent en réa et c'est les gens les plus fragiles. Tout le monde, manifestement, ne respecte pas les mesures barrières ou même qu'en les respectant, il y a une possibilité d'attraper le virus.
Il y a des comorbidités qui font que le virus peut aggraver la personne.
Bon.
Mais il y a beaucoup de gens qui ont le Covid à domicile et que ça se passe très bien.
Nathalie et Justine, monsieur Annan est avec nous, vous le connaissez, il est à l'hôpital Foch, monsieur Annan, si ma mémoire.
À l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
Ah, pardonnez-moi, l'hôpital. Ça fait deux fois que je vous envoie à Foch, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais vous êtes donc à Garches, effectivement, et non pas à Foch. Alors, on a Justine et Nathalie. Elles sont toutes les deux infirmières. Elles ne veulent pas se faire vacciner. Elles sont soignantes et elles sont réticentes à l'idée de ce vaccin. Et notamment des effets secondaires, pas tout de suite, mais peut-être à long terme. Et tout à l'heure, on a parlé de sclérose en plaques. C'était ce que disait Justine. Donc, je vous donne la parole, monsieur Annan.
Écoutez, d'abord, je voudrais réinsister sur le fait que... les vaccins aujourd'hui sont quand même la meilleure arme dont on dispose pour sortir définitivement de l'épidémie et pour prévenir tous les dommages que l'épidémie cause, d'abord sur le plan des vies humaines qu'elle emporte, ensuite sur le plan de la charge sociale et économique qu'elle impose à notre pays comme à beaucoup d'autres pays. Et le vaccin est vraiment aujourd'hui le meilleur moyen de sortir de cette situation catastrophique. Et non sur les maintenant très nombreuses vaccinations, quel que soit le vaccin qui ait été utilisé, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, ailleurs en Europe, ailleurs dans le monde, eh bien, on peut assurer que ce vaccin et ces vaccins ont une très bonne tolérance. Ils ont une très bonne tolérance. Et bien sûr, ce sont des médicaments, donc il y a forcément une possibilité d'effets secondaires. Mais lorsque l'on mesure ce que l'on appelle la balance entre les bénéfices et les risques, alors à l'échelle individuelle, les bénéfices, c'est quand même de se protéger contre soi-même, contre la maladie et le développement d'une forme grave, même lorsque l'on n'a pas de comorbidité. Les risques sont surtout des effets mineurs, fièvre, douleur au bras, et pour l'instant...
Mais cette affaire de sclérose en plaques, par exemple...
Ces affaires de sclérose en plaques ou d'autres maladies neurodégénératives qui ont fait l'objet de très nombreux débats, notamment après la vaccination contre l'hépatite B, on sait aujourd'hui, on a la démonstration scientifique de l'absence de lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques ou d'autres maladies neurodégénératives. On avait eu en 2009, avait été soulevé le risque de syndrome de Guillain-Barré lié à la vaccination contre le H1N1. On a démontré, en particulier à Garches, que cela n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de lien entre les deux.
Ben, c'est important que vous le disiez. On va laisser passer une page de publicité, puis on va interroger Justine et Nathalie, parce que c'est des rumeurs urbaines, mais elles ont parfois la vie longue, et elles freinent chez certains la confiance. A tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RT.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et je remercie grandement le professeur Djilali Annane d'être resté avec nous, qui est à Garches. Justine, la peur, la défiance sont parfois des virus bien plus difficiles à éradiquer que la Covid-19. Vous venez d'entendre le professeur Annane qui a réagi sur ce que vous disiez tout à l'heure, et je rappelle que vous êtes infirmière, qui a réagi sur la sclérose en plaques. Comment vous réagissez quand vous entendez ça ?
Eh bien, écoutez, de toute façon, très clairement, à chaque fois qu'on nous dit blanc, on vient nous dire noir derrière, que ce soit pour cette épidémie ou toutes les autres choses. Alors, évidemment, je veux bien croire ce que le docteur me dit, mais écoutez, il n'y a pas que sur ce vaccin d'hépatite. On en entend parler sur le Gardasil, que j'ai moi-même dû faire quand j'étais plus jeune. Sur son efficacité. On parle d'autres vaccins. Vous savez, Pascal, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et ça fait quand même beaucoup concernant les vaccins. Donc moi, je reste méfiante. Et tout à l'heure, il parlait de la balance bénéfice-risque. Bah, moi, c'est tout fait. J'ai 28 ans. Je suis en bonne santé. Depuis le début, bon, je suis passée au travers du Covid. Pourquoi j'irais me faire vacciner ?
Pour protéger les autres, Justine, parce que vous êtes soignante. Mais manifestement, je n'arriverai pas à vous convaincre, ni Nathalie d'ailleurs. Et c'est pourquoi, si vous me permettez, moi je pense qu'il faut rendre obligatoire pour les soignants précisément le vaccin, parce que en fait, vous pouvez le transmettre. Vous pouvez le transmettre. Et là, il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci éthique. Moi, je n'ai pas envie d'aller dans un hôpital pour attraper la Covid. Monsieur Annane, est-ce qu'il faut rendre le vaccin obligatoire, à votre avis ?
C'est une question difficile parce que je ne suis pas persuadé de l'efficacité de rendre obligatoire un vaccin. C'est-à-dire que ça veut dire quoi après ? Comment on va...
L'hépatite B, je crois que les soignants, c'est obligé.
Oui,
c'est obligatoire.
L'hépatite B, c'est obligatoire pour entrer dans les études. Donc, vous n'avez pas le choix. Sinon, vous ne pouvez même pas être formé pour faire le métier. Là, on n'est pas dans la même situation. Les professionnels, ils sont professionnels, ils exercent leur métier. Et on a chaque année le même débat pour la grippe, vous savez, le vaccin contre la grippe. Donc, moi, je suis, par contre, archi convaincu du fait qu'il faut convaincre. Nous, soignants, nous avons un rôle important dans la protection des autres personnes, en particulier dans la protection des personnes qui nous font confiance pour les soigner. Et donc, comme vous l'avez bien dit, il est absolument inimaginable d'accepter qu'il y ait un risque pour une personne de contracter la Covid-19 à l'hôpital au travers des soignants. Donc nous avons, nous soignants, la responsabilité de protéger nos patients. Et si l'on n'est pas en mesure de se protéger en se vaccinant pour protéger nos patients, eh bien, il faut à ce moment-là se retirer des soins du patient, ou alors accepter de faire très régulièrement une PCR ou un test antigénique pour s'assurer de ne pas être contaminant et contagieux pour le patient. Donc je crois qu'il faut, il appartient à chacun d'entre nous, à chaque soignant, de faire de la pédagogie autour de soi, auprès de ses consoeurs, de ses collègues, pour discuter et à s'amener les uns et les autres à se vacciner à un nombre beaucoup plus important que nous le sommes aujourd'hui.
Et bien, merci. Fondamental. Eh bien, merci, monsieur Hanan. Merci d'avoir donné ces réponses. Et puis, je vais remercier Justine et Nathalie. J'entends que chez monsieur Hanan, il y a une autre possibilité, c'est de faire un PCR tous les jours ou tous les deux jours, ce qui peut effectivement être une solution. Merci, Justine.
Merci beaucoup, Pascal.
Merci beaucoup, Nathalie. Vous êtes toutes les deux infirmières et toutes les deux, vous êtes réticentes à l'idée de vous faire vacciner. 13h35, une pause et puis on va continuer de parler du vaccin. On peut aussi parler d'autres sujets, hein. Nous pouvons parler par exemple de la violence en France, dans les quartiers de Reims, de Beauvais où le Premier ministre était ce matin, de Lyon également. On pourra parler de rugby si vous voulez réagir à ce qui s'est passé ce matin entre Bernard Laporte et la ministre des Sports. Et puis 16e de finale de la Coupe de France de foot à partir de ce soir, figurez-vous. Est-ce que l'un de vos clubs y participe? Alors c'est des petits clubs, hein. Je vois Aubagne par exemple qui va jouer contre Toulouse. Aubagne près de Marseille. Appelez-nous si vous voulez parler de foot.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Reims, Beauvais, Lyon, y a-t-il plus de violence aujourd'hui en France? A-t-on abandonné les quartiers sensibles? Vous sentez-vous toujours en sécurité? Y a-t-il trop de laxisme dans le pays? Rien ne restera impuni, la loi républicaine aura toujours le dernier mot, a assuré Jean Castex ce matin lors d'un déplacement à Beauvais. Alors cette violence est-elle plus forte? Écoutez ce qu'a répété à plusieurs reprises ces derniers mois le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Je pense qu'une certaine partie de la société connaît ce qu'on appelle l'ensauvagement, des actes de sauvagerie. Et oui, bien sûr, ça inquiète nos concitoyens.
Moi, j'ai utilisé le mot d'ensauvagement parce que j'ai constaté des actes de sauvagerie.
Ne cherchez pas, écrit José sur la page Facebook de l'émission. Les parents sont incapables d'éduquer correctement leurs enfants. La montée de la violence ne m'étonne pas, soupire hein, Véronique, on laisse faire. Où sont les lourdes peines? Thierry demande la tolérance zéro. Pour Jean-Luc, l'État a abandonné les cités depuis bien longtemps. Catherine parle de son côté d'une justice trop laxiste avec les délinquants dès le plus jeune âge, sans oublier la situation économique qui n'arrange rien pour Alexandre. Il faut une réelle volonté politique. Et Guy s'énerve sur nos réseaux sociaux. Nous sommes trop tolérants. Ils connaissent parfaitement les lois et se sentent intouchables. Ils ne risquent rien. Il est temps de responsabiliser tous ces jeunes.
On va partir pour le Pas-de-Calais, puisque vous le savez, le département du Pas-de-Calais confiné dès ce samedi 8h au dimanche 18h. Ce n'est plus le Pas-de-Calais, c'est le pas de week-end. Bonjour Ghislaine.
Bonjour Pascal.
Et oui, merci d'être avec nous.
On subit. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et tout. Moi, je suis pour la vaccination. Hein. De toute façon, je suis sage-femme. J'ai exercé dans un hôpital. Et tous les ans, on proposait de nous faire vacciner contre la grippe saisonnière. Je l'ai fait pendant plus de 25 ans. Cette année, depuis qu'on parle de vaccin, j'appelle régulièrement les plateformes pour pouvoir me faire vacciner. J'ai enfin réussi à avoir la première injection vendredi dernier. Et j'ai appelé en vain aussi pour ma maman qui a 90 ans depuis qu'on parle de faire vacciner les personnes âgées de plus de 75 ans. Et j'ai eu une réponse ce matin, je vais pouvoir l'amener demain malgré le confinement, je pourrais l'amener pour qu'elle puisse enfin avoir sa première vaccination. Alors moi je parle surtout pour les personnes âgées, les gens fragiles qui m'entourent, ils n'ont plus de vie sociale. Allô?
Oui, je vous entends, Ghislaine, oui, je vous écoute
oui,
même.
Oui, donc ils n'ont plus de vie sociale, il faut les protéger. Hein, j'ai ma sœur qui est infirmière libérale, qui a des patients atteints dans sa patientèle, et elle fait très attention, et elle attendait ce vaccin avec impatience, elle a réussi à être vaccinée il y a 2 semaines. Alors je pense.
Et comment vous comprenez ou comment vous entendez lorsque Justine, Nathalie, tout à l'heure, il ne s'agit pas d'ailleurs de les désigner du doigt, non, loin non, de là, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'elles sont représentatives de beaucoup de gens et oui, c'est ça pour oui. tout vous dire qui m'inquiète un peu. Moi, je découvre ça, je découvre que des soignants sont réticents à l'idée de se faire vacciner.
Bah, ils ont peut-être des sons de cloche en étant... mais bon, c'est des patients qui vont avoir des petites réactions. Parfois, ça prend des proportions. Ça, c'est un peu relatif aussi par rapport aux personnes.
Mais oui, mais c'est la peur, la défiance. Je vous disais, oui, c'est plus difficile à éradiquer que la Covid-19.
Moi, je pense qu'on s'en sortira jamais.
Bien sûr.
On ne fait pas l'effort de tous se faire vacciner.
Bien sûr.
Autant, on n'a plus de vie sociale. Le pays aura du mal à s'en relever parce que économiquement, ça coûte très cher.
Non, mais on voit bien la défiance dans tous les domaines, en fait. C'est la défiance du politique, défiance. Oui, et effectivement, ça crée des comportements.
Oui, mais tous les ans, le vaccin de la grippe de venir, c'est un nouveau vaccin.
Oui.
Puisqu'il est, il est fabriqué avec les souches de grippe qui ont eu lieu dans. Les personnes qui ont eu des grippes dans l'hémisphère sud.
Non, non, mais vous avez parfaitement raison, Gisèle. Alors, Benjamin
ans,
est là
c'est
aussi.
C'est un nouveau vaccin. Et moi, je connais personne qui a eu. Enfin, je connais personne qui est mort d'avoir fait un vaccin contre la grippe.
Bah, oui, c'est une bonne chose d'ailleurs. Merci beaucoup Ghislaine. Benjamin est avec nous, Benjamin, qui habite dans le Pas-de-Calais également.
Oui, c'est ça.
Vous êtes pharmacien?
Bonjour, c'est ça, je suis pharmacien.
Donc vous avez...
Bonjour Pascal.
Bonjour, vous allez vacciner?
Oui, dès qu'on peut. Là, le décret est tombé apparemment à partir du 15 mars. Donc on a beaucoup d'appels hein, depuis ce matin d'ailleurs par rapport à ça, de patients qui veulent se faire vacciner, qui veulent savoir comment ça se passe. On n'a pas encore toutes les informations. Donc on leur demande de rappeler la semaine prochaine qu'on en saura un peu plus pour voir comment ça se passe. Mais voilà, et moi je me fais vacciner demain.
Oui, alors que vous avez 39 ans, hein, simplement.
Voilà, c'est ça.
Donc vous faites vacciner parce que vous êtes un soignant.
Ouais, c'est pour ça aussi que j'ai intervenu, parce que alors au départ quand j'ai appelé, on m'a posé la question si j'étais pour ou contre le fait d'imposer la vaccination aux soignants. Alors au départ j'étais plutôt contre, un peu comme le professeur Annan en disant qu'il fallait responsabiliser les professionnels de santé. Mais quand j'ai entendu ce qui s'est passé à la radio là depuis 13 heures, j'ai plutôt tendance à dire pour, quoi. Donc justement pour protéger les patients, voilà, que tous les soignants se fassent vacciner, parce que des patients qui ont donné le Covid à des soignants, j'en connais. Des patients qui ont attrapé le Covid par des aides-soignantes, des aides ménagères et tout, j'en connais aussi. Donc, pour protéger tout le monde, il faut aller se faire vacciner. Nous, au niveau de la pharmacie, deux à trois fois par semaine, on regarde au niveau de l'INSERM les études qui sont faites sur les différents vaccins, qui sont plus que rassurantes, notamment sur l'AstraZeneca, pour rassurer les patients et puis pour pouvoir faire en sorte qu'un maximum de personne se fasse vacciner et qu'on soit tranquille le plus rapidement possible.
Vous allez être confiné là ce week-end. Vous constatez dans votre pharmacie un afflux de patients malades plus important qu'il ne l'était il y a un mois ou a fortiori il y a quelques mois?
Un petit peu. Après, sur le secteur où je suis à côté de Lens, je pense beaucoup moins que sur la côte ou aux alentours de Dunkerque ou de Saint-Omer. Mais ouais, il y a plus de cas quand même, il faut l'avouer.
Ben merci beaucoup Benjamin, il est 13h44, on va marquer une nouvelle page de publicité, et à moins que notre ami Grégory Caranoni ait quelque chose à rajouter sur cette séquence. Est-ce que vous avez vu l'ami Sini dans les parages?
Non, nous sommes en échange constant pour préparer l'émission de ce soir, mais je ne l'ai pas encore vu.
Est-ce que je peux
l'inviter à venir, hein?
Ben bien sûr, il doit venir le vendredi. Est-ce que vous avez le sommaire de l'émission de ce soir? On
Je préfère laisser Cyprien le faire. En revanche, vous savez que moi, je peux offrir des cadeaux parfois dans On défait le monde. Mais je vais offrir un cadeau aussi dans les auditeurs. Et on offre à tous les auditeurs un petit bon d'achat aujourd'hui. Écoutez ce que va nous dire Isabelle.
Toute la journée sur RTL, chaque auditeur qui passe à l'antenne remporte une carte cadeau Lidl de 50 euros à dépenser dans l'un des 1500 magasins Lidl partout en France. Félicitations.
Voilà une bonne chose, n'est-ce pas?
Ah bah évidemment. À tout de suite.
Je vous ennuie?
Pas du tout, pourquoi? Non, mais on pourrait saluer Pierre-Louis.
J'ai l'esquisse d'un bâillement, j'avais l'impression.
Non, mais j'ai pas un bâillement. D'abord, on salue Pierre-Louis Cyrano. J'ai vu Olivier également. Et Evan, qui est là. Et Jules aussi, qui est là. Et puis, peut-être que Rachel, la responsable du système,
bien sûr, elle veille.
Viendra nous saluer.
Et Damien Béchiot aussi.
Là. Damien Béchiot est là? Ah, mais Damien, bonjour.
Pour vous, Pascal.
Mais il est formidable. On l'entend mal parce qu'il parle derrière vous.
Pourtant, il parle fort.
Il parle fort, oui, je suis d'accord avec vous. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Les violences à Lyon hier soir, à Reims samedi dernier, également à Beauvais où était le Premier ministre. Nous allons évidemment entamer ce chapitre à l'instant avec Thierry. Bonjour.
Bonjour Pascal, merci d'avoir pris mon appel.
Je vous en prie, quel est votre sentiment sur ce qui se passe aujourd'hui dans des quartiers dits sensibles? Et le mot d'ailleurs est toujours intéressant, les mots sont toujours intéressants, ils sont appelés.
C'est bis repetita, on va en parler pendant quelques jours, et puis une information en chassant une autre, ça va tomber aux oubliettes, et puis jusqu'au prochain acte de violence. Moi, quand j'étais enfant, j'étais chez ma grand-mère, j'étais près d'un quartier sensible qui s'appelle le Villeneuve, à Grenoble, le village olympique, où aujourd'hui est une zone de non-droit. Moi, j'y allais faire du vélo, j'ai jamais mis de cadenas à mon vélo, il a jamais disparu, mais il y avait ce qu'on appelait le respect. C'est-à-dire, quand un adulte descendait en bas des cages d'escalier et demandait à tous les jeunes qui étaient en bas de se taire et d'arrêter de jouer au foot, il n'y avait pas un son qui bougeait, on baissait tous la tête et on rampait. Aujourd'hui, il n'y a plus ce respect. Ces nouvelles générations, on a banalisé une espèce de violence. Ils savent qu'ils sont intouchables. Ils le savent. Juridiquement, ils savent très bien qu'ils ne risquent rien. Un jeune de 13 ans qui voit passer les policiers et leur fait un droit d'honneur, qu'est-ce qui va lui arriver? Vous, demain, vous passez devant des forces de l'ordre, vous leur faites un droit d'honneur, ça ne va pas très bien se passer pour vous, à mon avis.
Non, mais ce qui est frappant, c'est la jeunesse, souvent des...
Oui, mais c'est mis en avant. Aux informations, on en reparle et tout. Là, on est en train d'essayer de mettre en cause la police. J'ai rien contre ce pauvre petit jeune de 13 ans. C'est dramatique ce qui lui est arrivé. Sans casque, avec apparemment un véhicule qui ne lui appartient pas. Qui est la police ou qui n'est pas la police derrière? Le problème n'est pas là. Le problème, il n'est pas là.
Vous avez donné une information que je n'avais pas. Sans casque, oui. Le véhicule qui ne lui appartenait pas, je n'avais pas cette information. Donc,
C'est pour ça que je n'ai pas employé le mot volé. J'ai dit un véhicule qui ne lui appartenait pas.
D'accord.
Comme vous dites chaque fois, on prend des pincettes avec les informations qu'on donne.
Non, mais en revanche, effectivement, il n'avait pas de casque. Mais il n'empêche, ce jeune homme est aujourd'hui dans un état
difficile. On est bien d'accord sur le fond de la chose. Mais qu'est-ce que ça change qu'il soit poursuivi ou non par la police? Il faut dire aux policiers, ne poursuivez pas quelqu'un qui est en infraction dans certaines zones. C'est ce qu'on leur dit aujourd'hui.
Mais en plus, manifestement, ce n'était pas le cas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, ce sont donc des violences urbaines hier à Lyon, dans le quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement. Plusieurs tentatives de mise à feu ont été signalées sur la voie publique. Des feux de véhicules ont provoqué un immense panache de fumée qui a été visible depuis une grande partie de la ville. Les premiers incidents se sont produits vers 17h40. Un équipage de police aurait été caillassé avant la flambée de violence. Il y a un hélicoptère, celui de la gendarmerie, selon toute vraisemblance, a survolé la Duchère. Un important dispositif policier est déployé. Les véhicules tournaient dans le quartier. À 20h50, le bilan des violences urbaines, c'est 6 voitures brûlées, 2 motos incendiées, 12 interpellations.
Ouais, mais tout ça, j'espère me tromper. Mais je suis prêt à parier, c'est peut-être pas le mot. Et dans les jours qui viennent, vous allez avoir des noms de quartiers dans d'autres villes qui vont émerger. Une voiture brûlée par ici, un caillassage par là-bas, une agression par ci. Ça va faire tache d'encre.
Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous proposez, vous, par exemple? Parce qu'une
mais
fois que
vous
avez fait...
Il faut juste laisser... Non, attendez, j'ai pas... D'abord,
non, mais quelle est votre solution, au fond?
La solution, c'est de laisser faire le travail. On a déjà échangé là-dessus, Pascal. Laisser faire le travail aux gens dont c'est le métier. Les forces de l'ordre, c'est leur métier de faire régner l'ordre sur tout le territoire français. Il n'y a pas des zones où ils n'ont pas à mettre le pied et à pas faire de choses. Pourquoi les ministres leur disent ne faites pas de poursuites, ne patrouillez pas trop là-bas parce que vous allez mettre le feu aux poudres? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce soir, à 18h, les forces de l'ordre vont être dans des ronds-points, dans certaines villes et tout, vont contrôler les gens pour le respect du couvre-feu. Vous êtes d'accord? Mais je pense pas qu'ils aillent faire ce style de contrôle dans certains quartiers.
Mais il y avait même la défenseur des droits.
Voilà, les défenseurs des droits, les associations de machin. On nous dit qu'il faut leur donner du travail aux jeunes. Allez voir un jeune qui fait 10 000 balles par jour, vous allez lui dire tu vas te lever tous les matins à 8 heures, du lundi au vendredi, pour aller gagner 1 200 balles par mois. Il va vous dire, mais tu rigoles ou quoi?
Ben merci Thierry de ce témoignage. La défenseur des droits, je rappelle, qui proposait dans certaines zones de ne plus faire de contrôle.
C'est
la solution qu'elle avait trouvée.
Elle habite où, elle, dans le 6e?
On l'entend plus, la défenseur des droits. Du coup, elle a disparu des radars. Fabrice est avec nous également. Alors, Fabrice qui est policier, c'est Lyon, mais c'est également Reims, avec ce journaliste qui avait été attaqué. Puis c'est Beauvais. Alors, à Beauvais, ce qui est intéressant, Fabrice, c'est que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se sont déplacés au commissariat de Beauvais à la suite des violences urbaines qui ont éclaté en début de semaine. Ça, c'est dimanche. 3 policiers qui ont été légèrement blessés à Beauvais lors de violences urbaines, donc, dont 2 par des tirs de mortier. Lundi soir, une trentaine de jeunes ont jeté des pierres sur une voiture de police, causant des dégâts légers. Fabrice, qui est en Savoie et qui est policier. Fabrice.
Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Fabrice.
Alors, dans un premier temps, bien sûr, merci de nous donner la parole, même en tant que policier. Et dans un deuxième temps aussi, bien sûr, une pensée à ce jeune qui, son pronostic vital est engagé. Donc, automatiquement, quelles que soient les circonstances de l'enquête, qu'elles soient défavorables à la police ou favorables à ce jeune, on ne peut avoir qu'une pensée quand même pour ce jeune actuellement entre la vie et la mort. Maintenant, pour recadrer un petit peu le sujet, bien sûr, il faut faire preuve de plus de fermeté. Les incidents de Beauvais, les incidents de Reims ne sont pas des faits divers. On les connaît depuis 2007, moi ayant assisté personnellement aux émeutes de Villiers-le-Bel en 2007. Et j'ai bien peur que tout ce qui est Covid, l'angoisse des gens de rester chez eux, les quartiers sur lesquels ça devient des zones de non-droit, on ne peut plus intervenir, les consignes, n'allez pas derrière quelqu'un qui est sans casque ou n'importe quoi. Et sur les ondes, on vous le dit directement, c'est les consignes qui sont fermes, n'allez pas planter un petit jeune derrière. Je peux le comprendre, sauf que derrière, il y a une forme de provocation de leur part. Ils provoquent la police. Et moi, quand j'entends le témoignage sans élément d'enquête, alors qu'un le gamin il est entre la vie et la mort, que la famille appelle déjà limite à une incitation à l'émeute derrière, de se dire la police est coupable. Pourquoi culpabiliser la police si elle est en faute? Il y a l'inspection générale de la police derrière pour pouvoir prouver ce qui s'est passé. Mais n'allons pas enflammer ni sur les réseaux sociaux un appel à la haine, parce que ça va être une mèche qui risque d'embraser les violences urbaines. Et depuis 2007, le ministère de l'Intérieur n'a qu'une seule crainte, c'est que les banlieues s'embrasent à nouveau.
Est-ce qu'on peut... Oui, tout le monde a cette crainte-là, et c'est bien normal d'ailleurs, parce qu'il y a un travail de prévention à faire, évidemment, il y a sans doute un
travail d'accompagnement. La prévention est faite, sauf qu'on a des consignes directes. Quand vous avez un refus d'obtempérer, derrière, pas de giro de ton, pas de signaux, voilà, lumineux, sonore, aucun giro de ton derrière. Que ça soit même la police municipale.
Attendez, parce que là, faut que j'ai pas compris tout à fait. Donc quand il y a un refus, dites-vous, d'obtempérer. Bon.
Bien sûr.
Donc qu'est-ce qu'on vous dit de faire ?
Vous constatez automatiquement l'infraction.
Oui.
L'infraction, le jeune, il est sans casque, bref, il est dans un quartier sensible.
Oui.
Voilà. Vous avez une patrouille de police qui passe. On circule quand même, on est préventif, quand même, on y va dans les banlieues. Il n'y a pas de zone de non-droit. Mais une fois que vous enclenchez vos signaux lumineux et sonores, derrière, vous avez tout le monde à vos fenêtres derrière qui vont déclencher automatiquement les téléphones portables. Ce qui va faire des films derrière sur les réseaux sociaux, et on va voir que peut-être il y a une patrouille de police qui... Et nous, on a des consignes sur la radio, on annonce un refus d'obtempérer, un jeune, c'est parti à tel endroit, dans telle zone. Ok, stop à la chasse, n'allez pas derrière.
Donc ça sert à rien en fait, vous servez à rien.
Mais si on a des consignes, mais tous
donc,
les jours.
Donc le consigne que vous avez, c'est de ne pas arrêter ceux qui font
bien
quelque
sûr,
chose.
Parce bien que... sûr que les consignes sont fermes, mais bien sûr qu'elles sont directes. Il faut aussi le dire, il n'y a pas de droit de réserve là-dessus.
Non mais ce que vous voulez dire, c'est que si vous ne pouvez pas sanctionner un refus d'obtempérer, ça ne sert à rien que vous fassiez une interpellation ou que vous tentiez...
On peut le sanctionner, monsieur Pro. On peut le sanctionner. Simplement, vous reconnaissez l'individu parce qu'il est non casqué. Vous savez parce qu'il est dans une cité sensible. Vous le connaissez. Vous faites une saisine derrière ce qu'on appelle un procès verbal.
Mais vous ne pouvez pas faire de flag.
Non, parce que le bénéfice du doute ira toujours pour celui qui, entre guillemets, dit non, c'était pas moi sur le scooter.
D'accord. Donc, il n'y a pas de possibilité d'arrêter en flagrant délit, c'est ça.
Il n'y a pas de sanction possible. Non, voilà.
D'accord.
La justice,
donc vous servez. Donc, c'est bien, non, mais c'est intéressant comme témoignage. Ça serait, moi, je rêve, franchement, qu'on mette ces témoignages devant le ministre de l'Intérieur, que Gérald Darmanin soit en studio. Que Gérald Darmanin soit en studio, parce qu'évidemment, il ne pourrait pas soutenir cela. Il dirait, c'est un cas particulier, c'est ceci, c'est cela. C'est pour ça que le terrain, d'ailleurs, cette émission, elle est formidable pour ça. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les politiques. J'ai vu aller sur le terrain Jean Castex, mais ça fait 50 000 fois que je vois des politiques au lendemain d'incidents arriver sur le terrain. Ça ne sert à rien, c'est de la com'. Ça sert à rien, donc il est allé faire un petit tour à Beauvais. Voilà, ça amuse peut-être les uns et les autres. Il y a des images, il y a deux ou trois déclarations, mais rien ne change. La vérité, c'est que rien ne change.
Comme vous, hein, de dire les mêmes choses à l'antenne, mais parce qu'on a un droit de réserve, malheureusement. Mais il faut aussi dire des choses. Voilà, je suis pas représentant syndical, je suis pas. Voilà, je suis un auditeur comme les autres. J'ai mon métier de policier. Moi, je.
C'est effrayant, en fait. La vérité, c'est que c'est effrayant.
Moi, j'ai conversé.
Parce que c'est que le début, peut-être.
J'ai conversé avec mes collègues, Cédric, tout ça, qui font partie de ma promo.
Alors vous le direz après la pub, Fabrice, parce qu'on est déjà en retard et on va faire le flash de 14h. Restez avec nous, vous êtes policier, je le rappelle, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Et on continuera la discussion avec Fabrice qui est policier, mais tout d'abord le flash avec Olivier Bois.
Avec toujours cette volonté d'accélérer la campagne de vaccination, c'est l'un des points annoncés hier. Des doses supplémentaires sont débloquées pour les zones les plus touchées. Plus de 50 000 doses, par exemple, livrées en urgence pour l'Île-de-France, vont permettre d'ouvrir la plupart des centres de vaccination. Plus de 100 tout au long du week-end. Les gens sur liste d'attente vont être rappelés. Le Pas-de-Calais reconfiné le week-end. Pourquoi ce seul département? Certains posent la question, alors que la Seine-Saint-Denis, par exemple, a une incidence similaire. Le ministre de la Santé explique que c'est aussi une question de saturation des services hospitalier et que pour ce qui est de l'Île-de-France, la mesure pour être efficace doit être généralisée à toute la région. À Paris, la préfecture, pour limiter la diffusion du virus, élargit l'interdiction de boire de l'alcool à d'autres zones, sur les berges rive gauche, rive droite, sur le pont des Arts, sur les berges également, sur l'île de la Cité et sur l'île Saint-Louis. C'était en octobre dernier à Herblay dans le Val-d'Oise, deux policiers en planque étaient attaqués par des hommes qui les avaient roués de coups et tirés dessous avec leur propre arme de service. Un troisième suspect a été interpellé aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine. Et puis un rendez-vous sport sur l'antenne d'RTL. Ce soir, le capitaine du PSG, Marquinhos, est l'invité exceptionnel de RTL Foot à partir de 20h, avant le déplacement de demain à Brest en Coupe de France et avant bien sûr les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ça, ce sera mercredi prochain face à Barcelone, Pascal.
Merci, cher Olivier. Il est 14h02.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Cyprien Signy est là, vous le savez, c'est l'homme du surf le matin, le soir et puis le vendredi, on refait le monde.
Bonsoir à tous.
Bonsoir, enfin,
bonjour plutôt, là, il est midi, oui. Enfin 14h.
Bon, c'est quoi le programme ce soir?
Alors on va parler d'un sujet un peu tabou, la dépression chez les sportifs à cause du Covid. Parce qu'on parle beaucoup effectivement des milieux qui sont terriblement touchés, comme la culture, comme les étudiants. Mais les footballeurs, les tennismen...
Mais les professionnels?
Les professionnels.
Mais qui est dépressif?
Se demandent, ils n'en parlent pas ouvertement, mais il y a beaucoup de joueurs qui se demandent quelle est leur utilité. Quelle est l'utilité d'aller faire...
1 million d'euros par mois.
Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, ils se posent des questions sur le sens de leur travail.
Vous n'allez pas me faire pleurer sur les footballeurs professionnels.
Le but n'est pas de vous faire pleurer. Il n'y a pas que les footballeurs, il y a les tennismen et les rugbymen.
Quel témoignage vous avez?
Vous écouterez ce soir. Il y a notamment le handballeur Lucas Ballo, de l'équipe de France de handball. Lui, par exemple, il joue dans un club norvégien. Enfin, je ne vais pas vous raconter tout le sujet.
Une dépression, c'est un peu fort.
Non, mais pas dépression, mais il se pose des questions sur leur sens de leur travail. Bon. C'est assez intéressant. Et c'est original comme sujet. À l'image de cette émission.
C'était tout à fait ce matin, je vous ai écouté sur Meghan
Markle. Le Buckingham Palace Gate. C'est vrai que ça va pas du tout là-bas.
Et l'interview, c'est quand?
Dimanche, chez Oprah Winfrey.
Et vous allez en parler lundi peut-être alors?
Ils vont tout balancer, ça va être terrible.
Terrible. 14h03, merci Monsieur Signy.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Si vous étiez avec nous avant 14h, vous avez peut-être écouté Fabrice, qui est policier, et vous avez été surpris ou pas d'ailleurs, parce qu'on ne l'est même plus à vrai dire surpris. C'est-à-dire que Fabrice nous explique qu'il est sur le terrain et qu'il a des ordres pour ne pas intervenir. C'est ça la réalité. Parce que si vous intervenez, il y a possibilité d'enflammer, en l'occurrence, les quartiers sensibles. C'est bien cela, Fabrice?
Bien sûr, Pascal Pro, c'est bien des notes de service qui viennent de notre propre ministère pour ne pas prendre en charge ou un véhicule.
C'est écrit noir sur blanc.
Une infraction ou un véhicule volé, bien sûr.
Donc on vous dit, si vous avez, si vous prenez en course un véhicule, pourquoi pas, qui a été volé, il y a trop de risques, donc ne le faites pas.
Exactement.
J'ai du mal à croire que ce soit écrit noir sur blanc. C'est ça qui est fou.
C'est des consignes permanentes. Non, mais vous savez très bien que c'est écrit noir sur blanc. Mais quand on vous dit ça à la radio, vous êtes trois collègues dans un véhicule. À un moment ou un autre, quand on vous dit de lâcher, vous lâchez.
Non, mais ça, oralement, ça, je peux le comprendre. Mais que ce soit écrit en note de service, ne poursuivez pas ceux qui volent des voitures ou qui ont des voitures volées. C'est vrai que je tombe.
De services concernant ces sujets-là. Malheureusement, je vous dis, pour préserver aussi peut-être la forme de provocation qu'on a de certains individus. Maintenant, on ne va pas tous les mêmes dans le même sac, c'est certain. Mais il faut penser quand même à ce jeune qui a provoqué. C'est un petit peu le jeu du chat et la souris. Le problème, c'est que souvent, le chat, il gagne, parce que nous, on ne peut pas y aller avec nos véhicules, nos motos, on a des motards et tout ça, mais on ne peut pas interpeller tout le monde, c'est pas possible. Ils connaissent leur quartier, leur banlieue, voilà. Mais je stigmatise personne et aucune identité en France sur le fait que ça soit un tel ou un tel qui commette toujours les mêmes actes. Mais à un moment ou un autre, on a un code de déontologie, on le respecte au maximum. Et moi, je vous dis, quand j'ai une pensée pour mes collègues, parce que je sonde, ces auditeurs ont la parole, je sonde mes collègues qui sont à Dunkerque, Cédric, notamment, Papy, tous ceux de ma promotion de l'ENP Roubaix, en 97, mais on fait notre boulot depuis 27 ans et on le fait du meilleur possible. Mais n'allons pas embraser et n'entendons pas une famille qui incite déjà, limite, à inciter, entre guillemets, à ce que les banlieues s'enflamment du jour au lendemain. On en a déjà assez avec le Covid et je vais laisser la place aux autres auditeurs.
Merci Fabrice. Et puis moi, je vous tire mon chapeau parce que franchement, le métier de policier aujourd'hui, d'aller dans les cités, d'aller dans des endroits difficiles, de vous faire insulter, de vous faire parfois mépriser, de vous faire cracher dessus, parfois vous n'êtes même pas soutenu. Et en plus, dans la sphère médiatique, vous êtes montré du doigt. Donc si on peut vous aider, si on peut aider la police au moins à simplement faire son job, que ces quelques minutes durant lesquelles vous avez parlé soient utiles, Fabrice.
Voilà, l'intérêt de mes collègues avant tout. Merci. Merci à vous, Pascal Pro.
Merci à vous. Yves est là. Yves qui habite en Seine-et-Marne. Bonjour Yves.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Mais je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Ce n'est pas d'ailleurs ma première intervention. Ceci étant, moi je suis étonné, permettez-moi d'être étonné par l'étonnement général concernant la violence. Moi je vais vous citer un exemple très simple. Avant d'habiter la Seine-et-Marne, j'habitais en Seine-Saint-Denis dans une ville qui s'appelle Sevran et qui a fait suffisamment parler d'elle. Je l'ai quittée en 97. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait déjà des attaques de bus à coups de pavé, il y avait déjà du trafic de drogue au Beaudoc, et il y avait des voitures incendiées au quartier Rougemont. Donc, les policiers, déjà, quand ils effectuaient des contrôles, c'était carrément la main sur le pistolet, je l'ai vu. Hein. Donc, on s'étonne, oui, il y a de la violence. Alors, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables qui filmaient, donc, effectivement, c'était beaucoup moins médiatisé. Et puis, il faut dire aussi que cela arrangeait tant les autorités municipales que, je dirais, nationales, que les autorités, parce qu'il valait mieux ne pas trop faire de bruit. Mais maintenant, c'est le principe du couvercle de la cocotte qui explose, parce qu'on a tout fait pour minimiser ces faits. Maintenant, ils arrivent au grand jour. Et permettez-moi aussi un autre exemple. Moi, j'interviens dans les collèges, je peux vous dire que dans certains établissements, les cours de récréation, ce sont des champs de bataille. La violence s'exprime aussi là. Et vous avez les surveillants qui sont obligés d'intervenir.
Ça se passe comment? Vous dites champ de bataille. D'abord, c'est des enfants qui ont quel âge?
Ça va de la 6e à la 3e, donc la tranche d'âge, on va dire, c'est 10
donc
ans,
c'est
15
collège.
Ans. Bon. Oui, voilà, c'est collège. Oui, c'est
et
collège.
Ça se traduit comment, ce que vous appelez champ de bataille? Ça m'intéresse.
Vous avez deux types en fait de batailles. Bon, pas dans tous les établissements, que les choses soient claires. C'est des établissements vraiment minoritaires dans lesquels il y a des problèmes. Mais vous avez soit deux bandes qui s'affrontent pendant la récré, donc vous avez des bandes de 4 ou 5 gamins qui passez-moi l'expression, se foutent sur la gueule, ou alors vous avez un gamin qui va se faire tabasser par 3 ou 4 autres, à tel point, je répète, que les surveillants sont obligés d'intervenir. Donc cette violence,
oui,
elle existe.
Bien sûr.
Elle existe dans ces établissements. Elle n'est de toute façon que la matérialisation de la violence qui existe aussi dans les quartiers, d'où ces gamins sont originaires. La violence n'est pas générée par l'établissement scolaire, pas du tout. Mais simplement, c'est leur manière de faire. C'est comme ça. Moi, c'est un constat. Alors, on s'étonne. On va donner des leçons de morale pour l'un. On va s'indigner pour l'autre. On va faire, bon, moi, je veux bien. Mais ce phénomène, il existe depuis des décennies. Bon, alors qu'on ne vienne pas nous dire le contraire. Alors évidemment, ça s'est amplifié. C'est vrai qu'on assiste maintenant à des actes qui sont d'une extrême gravité.
Si vous dites que ça existe depuis des décennies, puis ce qui a changé, c'est la médiatisation via les smartphones, via les réseaux sociaux.
Tout à fait.
C'est pour ça que j'entends parfois aussi des témoignages de gens qui ont vécu dans ces cités et qui disent « mais ça a toujours existé, mais avant ce n'était pas médiatisé parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable ».
C'est exactement ce que je viens de vous dire.
Oui, exactement. Mais alors, j'ai envie de dire, si c'était ça, d'une certaine manière, ça serait moins grave. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça veut dire que ça a toujours existé, que c'est resté sous contrôle. Évidemment, c'est très ennuyeux, mais c'est resté sous contrôle et ça n'a pas été au-delà. Mais en revanche, si on pense que c'est de plus en plus grave, de plus en plus violent, à ce moment-là, c'est plus ennuyeux parce que ça peut ne jamais s'arrêter. Et en tout cas, l'escalade est possible. C'est ça que je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question.
Non mais attendez, nous avons bien un État, la France est bien un État, il y a bien des autorités.
Oui,
attendez, la loi, elle est la même pour tout le monde, on ne peut pas la faire respecter, c'est impossible.
Non, on ne peut pas, manifestement, c'est ce que nous disait Fabrice. Fabrice, il est policier, on lui dit de ne pas intervenir.
Ah non, oui, d'accord, parce qu'on lui dit, effectivement, oui. Non mais ça, c'est pas nouveau non plus. J'ai des copains qui sont policiers ou qui sont gendarmes, ils m'expliquent leur quotidien, croyez-moi, c'est pas drôle. Maintenant, permettez-moi juste un petit aparté concernant ce jeune homme, et c'est une tragédie, ce jeune homme qui circulait sans casque, ça c'est quelque chose d'absolument atroce. Je rappelle simplement la réglementation. Pour piloter un cyclomoteur, on doit être âgé de 14 ans, posséder le permis AM et on doit avoir un casque et des gants. Bon, ça n'enlève rien à la tragédie, à l'horreur. Je dis bien l'horreur de ce qui s'est passé sur ce gamin. Mais voilà. Et dans les collèges, je reviens à ça aussi, moi au Mexique.
Non,
moi,
mais c'est là que c'est voilà. Des sujets délicats, parce que c'est sans doute, évidemment, que les gosses de la bourgeoisie sont plus accompagnés, ils ont des parents qui sans doute font attention à
tout
eux,
à
qui ne leur permettent pas d'être sur une moto sans casque à 13 ans, etc. Mais sans doute que ce garçon que je ne connais pas, il est dans une structure familiale où l'autorité est moins forte, où la réussite sociale est sans doute moins forte, etc. Et on sait bien que
Tout
s'enchaîne, on sait les...
Oui, tout à fait.
Qu'il y a évidemment des raisons aussi sociales à ça. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais il y a des raisons.
Non, mais ça, je le constate.
Évidemment, et que ces gosses, il faudrait les aider, et parce que c'est d'abord aussi les premières victimes, ces gosses. C'est pour ça que c'est très particulier comme discussion, quoi. Très particulier, très, très difficile, ces discussions.
Merci, en tout cas.
Merci beaucoup. Merci. Il est 14h11. J'aime passer par M. Caranoni de temps en temps avec la publicité, mais là, il n'a pas grand-chose à dire aujourd'hui, ce vendredi. Je me trouve un peu terne.
Oui, écoutez, je sais rester en retrait.
Quelque chose, mais là, c'est vendredi. Manifestement, il va être temps pour vous de passer à autre chose. Ce week-end, vous allez où ce week-end ?
Je resterai à Paris.
D'accord.
Je respecterai le couvre-feu à 18h chaque jour.
Mais il n'est pas utile que vous le disiez, nous le devinons.
Parce que vous savez que je suis un homme bien, c'est ça ?
Non,
l'instant humilité.
J'espère que vous êtes un homme bien. 14h12, nous revenons. On pourrait parler, c'est vrai qu'on en a assez de parler des mêmes sujets toujours et tout le temps, parfois. Donc si on pouvait avoir un petit sujet différent d'ici 14h30, un peu de football, un peu de rugby peut-être, non ?
Si les auditeurs appellent sur les sujets, pourquoi pas, bien sûr.
À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Nous partons pour Reims avec Philippe. Bonjour.
Bonjour, bonjour Pascal, bonjour à tous.
Vous êtes un Rémois pur sucre.
Un Rémois depuis longtemps. Alors, Rémois, oui, je connais bien la ville de Reims pour y habiter depuis 76 exactement.
Mmh.
Donc,
ça fait un petit moment.
Ça fait un petit moment. C'est une belle ville, faut vraiment dire.
Très belle ville, Reims.
Très belle ville, très dynamique depuis qu'on a un maire effectivement qui est très dynamique et qui développe cette ville à tous les niveaux. Ça, il faut reconnaître là-dessus. Il y a rien à dire à ce niveau-là.
Bon, quel est votre sentiment sur cette ville ? Est-ce que vous trouvez que la ville, par exemple, elle a changé et qu'elle est devenue moins sécure ?
Alors, je vais prendre deux exemples. Quand j'étais gamin, j'allais à la piscine. On se faisait effectivement piquer nos vélos par des gamins qui descendaient Croix-Rouge. Comme dans toutes les villes, je pense que c'est pas particulier à Reims. Et quand un gamin, dans un établissement sportif, dans une piscine, dans un stade, et tout le monde qui le respect, on avait des éducateurs qui venaient, et moi je l'ai vu, un éducateur qui avait sorti un enfant parce qu'il était bruyant, il respectait pas les règles de sécurité dans un établissement, on l'a mis dehors, il est venu se plaindre en disant « je vais faire mes grands frères, je vais venir ». Les grands frères sont venus, et effectivement, quand l'éducateur a expliqué ce qui s'était passé, le grand frère, ce qu'il lui a mis une claque, il lui a dit « tu rentres à la maison et tu ne peux pas déplacer pour ça ». Ça, c'était dans les années 85. Aujourd'hui, on a fait une soirée sportive dans un quartier Croix-Rouge également, sur une salle qui s'appelle la salle Rossini.
Le Croix-Rouge, c'est le quartier où le journaliste reporter photographe a été agressé. Hein.
Où Christian a été agressé.
L'Antenois.
C'est une personne que je connais.
Vous le connaissez ?
Oui, je le connais. J'étais avec lui il y a 3 semaines. Au niveau d'un match de sport où il venait faire des photos, il aimait bien imprimer les images et les émotions sportives de tous les sports. C'est quelqu'un qui était très connu sur Reims et très apprécié. Ce qui montre en même temps les mois et toute l'émotion qu'il y a par rapport à cette agression. Donc, sur une salle Rossini, ça c'est une dizaine d'années, on faisait une soirée tranquillement et on s'est fait caillasser à Croix-Rouge par des gamins qui avaient 15-16 ans. Caillasser, hein, je dis bien, on sortait pour prendre l'air, on s'est fait caillasser. Il a fallu que la brigade, la BRI arrive pour intervenir, pour les faire calmer. C'est déjà une étape. Et là, moi, j'allais chercher mes enfants dans un établissement sportif, une piscine. J'attendais dans un quartier autre de Reims, en général. Je me suis fait taper sur ma voiture. J'ai failli faire casser la vitre. Et j'ai été visiblement pris à partie par 2-3 gamins, dont le plus jeune doit avoir 13 et 16 ans. C'est entre 13 et 16. Et ils m'ont dit de dégager, tout simplement parce que je gênais leur activité guetteur sur leur trafic de drogue. Voilà, c'est l'évolution qu'il y a. Et aujourd'hui, honnêtement, je vois, quand j'étais gamin, j'allais à l'entraînement sur la place du théâtre, sur Reims, où je prenais ma voiture, et je prenais le bus, et j'y allais tout seul. J'avais 12-13 ans, sans problème. Aujourd'hui, quand vous avez la place du théâtre, alors avec le confinement, on ne voit plus, mais avant le confinement, en hiver, à partir des 18h, vous aviez 3-4 voitures de police. Parce que c'est devenu un lieu qui était de plus en plus, et ça, c'est en plein centre-ville. C'est à côté du théâtre, à côté du palais de justice. C'est en plein centre-ville. Donc, on a un élément de sécurité qui devient de plus en plus présent. Alors, c'est pas de dire qu'il n'y a rien de fait. C'est juste que c'est des choses... On est toujours en train de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Et le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de volonté réelle de faire le ménage, de faire le nécessaire pour que ces choses-là n'arrivent plus.
Mais parce que c'est sans doute trop difficile, j'imagine, et que les problèmes sont extrêmement complexes. Parce que vous dites qu'il n'y a pas de volonté. C'est quoi la solution alternative, selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire?
La solution, c'est déjà d'avoir du courage d'appliquer la loi. Le gars qui a agressé Christian, il a 8 condamnations.
Mais on en a parlé hier.
Voilà, c'est juste inadmissible.
C'est juste inadmissible. En plus, moi, ce que je voudrais, c'est très intéressant, effectivement. Donc, il est en France avec une carte de séjour espagnole, nous sommes d'accord. Parce que quand tu as une carte de séjour espagnole...
Il vient avec une carte de passeport.
Exactement.
Donc, il vient illégalement.
Ah non, il n'est pas en situation illégale, il a une carte de séjour espagnole. Oui. C'est l'Union européenne.
Vous savez que vous avez beaucoup qui viennent avec des cartes d'identité italienne et qui sont libyens ou qui sont d'autres pays.
Ah bah ça, oui, mais a priori, c'est une carte de séjour. Bon, mais ce qui est intéressant, aussi, moi, ce que je voudrais savoir, c'est l'argent que lui a versé l'État français. Parce que je pense qu'il a reçu des aides de l'État français. Il a été donc condamné 8 fois. Je voudrais une radiographie totale de ce cas-là. 8 fois condamné. Je voudrais également le juge d'application des peines. Je voudrais connaître celui qui l'a mis en liberté ou pas, etc. Parce qu'on ne sait jamais rien. Il y a une chaîne de responsabilité. Il me semble que les citoyens doivent pouvoir connaître, et notamment la réponse pénale qui a été apportée. Ça m'intéresse vraiment. Mais vous, j'ai peur que nous n'ayons pas ces réponses.
Je suis très d'accord avec ce que vous avez dit. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ce gars-là vient du 9-3. Moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner une équipe sportive dans une région, 9-3, exactement, à Bobigny. À Bobigny, on a eu un match, on a eu des menaces de mort sur un joueur qui avait 17 ans. Des menaces de mort.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde ?
On prend conscience de ça.
Oui, mais Philippe, c'est des témoignages qui arrivent, effectivement, du terrain.
Vous savez, autre chose qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a un de vos interlocuteurs qui a parlé qu'à 13 ans, ils sont impunis. Oui, ils sont impunis à 13 ans, ils font ce qu'ils veulent. 13, 14, 15 ans. Il y a effectivement tout un phénomène de démission de l'éducation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'éduque pas ses enfants, on les nourrit. Il y a un principe de base, c'est que l'éducation, c'est pas seulement nourrir ses enfants, c'est leur apprendre des
règles. Oui, mais effectivement, Philippe, mais ces familles sont défavorisées souvent, sont en difficulté sociale. Attendez, Philippe, le père n'est parfois pas là, la mère, on sait bien qu'elle rame et c'est elle qui travaille, elle est parfois aide-soignante, etc. Ou aide ménagère. Vous voyez, on sait très bien que c'est une difficulté dans tous les domaines, difficulté financière, difficulté sociale, difficulté culturelle.
On est dans une société où on ne fait que trouver des justificatifs et surtout des excuses à des choses inexcusables.
Non, mais là, ce n'est pas des excuses, je recontextualise.
J'ai posé une fois dans un club de réflexion une question à M. Ciotti, Éric Ciotti. Je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce qu'en France, il y a des systèmes qui permettent de rapprocher le niveau de vie d'une personne de son niveau fiscal? Ça existe. Aujourd'hui, combien de fois vous voyez des gamins qui sont avec des BM, des voitures que vous ne pouvez pas vous payer, peut-être vous, mais pas moi, et des périodes à 60 000, 70 000 euros, qui sont là-haut, qui sont dans la voiture, la musique à fond, et on sait très bien que l'argent vient du marché de la drogue, des trafics. On le sait. On le sait tous. Nous, on avait sur Reims, dans les quartiers, à un moment donné, quand il y a eu l'affaire des attentats avec les frères Kouachi, ils étaient dans Reims, ils étaient dans les quartiers. Aujourd'hui, sur Reims, je ne sais pas exactement combien il y en a, mais je pense qu'il y a énormément de fichiers, il y a tout ça, il y a tout ce tissu qui vient
bon,
là.
Bon, Philippe, j'ai compris le sens de votre intervention. C'est vrai qu'il ne faut pas essentialiser et généraliser. Souvent, on le dit à ce micro, les premières victimes d'abord de ces quartiers difficiles, c'est précisément ceux qui vivent dans ces quartiers difficiles, et c'est souvent une minorité. Vous parliez de jeunes gens qui peuvent être dealers, c'est par définition une minorité. Michael est là, il est policier. Bonjour Michael. C'est toujours Bonjour. Intéressant d'avoir des témoignages du terrain de policiers, parce que vous, vous savez ce qui se passe et vous nous remontez des infos.
Oui, tout à fait. Je voulais rebondir un tout petit peu là sur les différents discours que j'ai pu entendre, notamment du policier Fabrice ou du monsieur en question là en direct. Effectivement, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le boulot de policier il est fait de plus en plus de manière stricte. On est de plus en plus contrôlé. On fait les choses de manière très réglementaire parce qu'on est très surveillé au niveau des procureurs, au niveau de la magistrature. Et le problème, c'est que il y a des réponses pénales qui sont pas adaptées. Donc, quand vous parlez tout à l'heure du GAD ou de quoi que ce soit qui peuvent intervenir, il est vrai qu'il sera intéressant de plutôt s'intéresser côté justice qu'au côté police.
Le JAP, c'est le juge d'application des peines, hein ?
Alors, ça c'est le JAP, le juge d'application des peines, et le GAD, le juge des libertés et des peines.
D'accord.
Donc, en fait, c'est lui donc, qui peut décider d'un contrôle judiciaire à l'issue d'une mise en examen, par exemple, qui peut décider donc, d'un placement en détention ou de le remettre dehors. Sauf que, très souvent, le problème, c'est qu'il y a de longs travaux d'investigation qui peuvent être fournis par les policiers. Donc, moi, j'ai travaillé notamment en investigation, je peux vous en parler. Ça peut durer des mois, voire une année ou voire plus, avec derrière une peine pénale qui est sur du sursis, avec un contrôle judiciaire, et la sanction pénale n'est pas appliquée telle que les textes de loi le prévoient. Donc, quand vous êtes face à des individus comme ça, ils s'en vont, ils ont un rictus, ils vous regardent, et ils s'en vont, et ils savent qu'ils peuvent recommencer, parce que ça va être continuel. Et le problème, c'est que ce boulot devient lassant, même en termes de policiers, et je peux vous dire d'une généralité, pour avoir fait plusieurs villes de France, que ce constat, il est au niveau général, il n'est pas au niveau d'un côté local. Et ça devient très démotivant pour les policiers. Et très honnêtement, aujourd'hui, vous voyez limite une mobilette, quelqu'un qui roule à moto sans casque, vous n'avez aucune envie de le contrôler, parce que pourquoi vous allez prendre des
risques ? J'imagine, Michael. Merci, c'est notre dernier témoignage du jour et même de la semaine. C'est l'heure du débrief tant attendu par l'ami Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Tous les jours, désormais, on me dit le débrief de Laurent, c'est formidable, les gens l'attendent.
Oh, la pression que vous mettez.
Mais non, je vous assure, on se met en direction chaque mot qui sort de notre bouche, on dit est-ce qu'on va le retrouver dans le débrief ?
C'est la question du jour. Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants ? 30% dans les hôpitaux l'ont fait, 40% des personnels des EHPAD. Justine est infirmière libérale à Valenciennes.
J'ai quand même une certaine méfiance vis-à-vis de ce vaccin, vis-à-vis des effets secondaires à long terme.
Même avis pour Nathalie, infirmière libérale, cette fois-ci dans l'Oise.
Moi, je ne suis absolument pas pour le vaccin et je ne suis absolument pas pour qu'on force les gens. Je veux qu'on responsabilise les gens et qu'on arrête de les infantiliser.
Réponse du professeur Djilali Anan dans l'émission chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garges dans les Hauts-de-Seine.
Les vaccins aujourd'hui sont quand même la meilleure arme dont on dispose pour sortir définitivement de l'épidémie. On peut assurer que ce vaccin et ces vaccins ont une très bonne tolérance.
Et puis on sent, Pascal, que vous êtes un peu fatigué en cette fin de semaine.
À tout de suite.
Je vous ennuie ?
Pas du tout, pourquoi ?
Bonne nuit, nounours.
Et vous avez aussi... Bonne nuit, ami Pascal. Vous avez aussi de nouvelles formules sympathiques.
Comme on le dirait chez Mary Poppins, c'est supercalifragilistique.
Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long...
On va l'avoir dans la tête tout le week-end. Le vendredi, chers amis, tradition oblige, si vous n'étiez pas avec nous, la semaine tant attendue de Flavie et Pascal.
Quand je rentre dans ce studio, vous m'appelez comment ?
Ami ?
Oui, justement, effectivement. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour moi ?
Rien.
Oh là 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 là, ça c'est envoyé punchline, vengeance de Flavie cette semaine.
Qu'est-ce que vous meublez bien? Vous faites bien le meuble.
Je fais bien le meuble.
On peut vous utiliser, vous, ou pas? Je vais vous objetiser, tiens. Je vous en prie.
Voilà.
Bon, quand même, Pascal, avec tout ça, il va falloir vous rattraper.
Et maintenant, Blaise, flattez-moi.
Merveilleuse, bien évidemment, et je trouve qu'il y a toujours beaucoup d'intelligence dans vos débats, beaucoup d'empathie.
C'est allé, c'est vendredi. Avant de se quitter...
Si on chantait, si on chantait, si on chantait...
Il est l'invité, hein, du journal inattendu.
Vous savez, tout est prévu. L'interprétation de la semaine par notre artiste maison.
Je te survivrai et tu m'entendras.
Et cette semaine, Pascal, on l'a dit, vous n'avez pas bien lancé Olivier Bois pour les flashs d'information à 14h. Du coup, Olivier s'est rapproché de Flavie, mais nous veillons pour vous, nous les espionnons au quotidien.
Pascal Praud, il nous... vous savez qu'il est jaloux.
Oui, mais j'ai eu un problème à cause de ça.
C'est normal. C'est normal qu'il soit jaloux.
Il a qu'à me lancer correctement.
Mais exactement, le message est passé alors. À bon entendeur.
Je suis sûr qu'ils vont réécouter encore ça.
Oui, on a réécouté le flash de 15h. Allez, il est bientôt l'heure dont on est fait pour s'entendre. Coucou Flavie.
Salut Annie.
Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui ne plaît pas au Covid-19 et ses potes les variants. On la ressortira une fois le virus éliminé.
Magnifique. Bravo Monsieur Tessier.
Bravo à vous.
Mais
bravo
non,
à vous tous
bravo,
au 3210.
Vous êtes formidable. Ce débrief est vraiment réussi à chaque fois. 14h27, Flavie dans une seconde.
Vous dites ça parce que vous êtes sans cesse dedans.
Non, pas du tout. Je trouve que c'est...
Mauvais esprit, j'avoue.
Non, il a beaucoup de qualités, de talent.
Bien partagé si vous gagnez à l'Euro Million bientôt.
C'est un plaisir de travailler avec lui. Ça fait la troisième saison qu'on est ensemble.
Troisième saison. Vous n'êtes pas encore ma plus longue relation. Bah, j'espère pas d'ailleurs. Sinon, c'est inquiétant pour madame. Lapsus.
Non, il est un peu fou Laurent Tessier, je précise. Voilà. Mais à la pub à tout de suite, la Flavie.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.